marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut faire parler les silences de l'histoire. Nathalie Zemon-Davis, historienne des possibles, elle dirait même mieux, peut-être de l'espoir.
Le mot histoire, il a deux sens. Et les Anglais, sur ce point, sont beaucoup plus clairs que nous. Il y a ce qui s'est passé, que les Anglais appellent story. Hein. Et il y a le récit que l'on en fait. Et c'est pas du tout la même chose. Le récit que l'on en fait, on extrait de ce qui s'est passé quelques éléments. Car il faut bien dire que ce qui prédomine, c'est l'oubli, c'est le silence, c'est l'obscurité, c'est la nuit. Hein. Et nos récits d'historiens ne sont que quelques éléments que nous mettons au jour. Alors pour les femmes, c'était particulièrement vrai. Faire advenir les femmes au récit, c'était pour nous comme leur donner une deuxième existence.
Nathalie Zemon-Davis acceptera d'entendre, en exergue de cette émission qui va lui être consacrée, un propos de Michel Perrault, sa contemporaine, sa complice, qui est allée comme elle, de l'histoire sociale à l'histoire des femmes, qui a co-dirigé avec elle un volume de la grande entreprise collective des années 1980-1990, intitulé précisément « Histoire des femmes ». Michel Perrault dit que l'histoire peut sortir de l'oubli bien des destins, et Nathalie Zemon-Davis ajoute « Les disparus ont besoin de nous, et nous, nous avons besoin d'eux dès lors qu'elles, ont exercé leurs responsabilités et façonné leur destin. » Ainsi, les silhouettes féminines du passé qu'a suivi Nathalie Zemon-Davis ne sont ni des héroïnes, encore moins des victimes, ce sont des personnalités qui se sont dessinées des possibilités, des issues. Et c'est une grâce pour ceux qui la lisent de réaliser que tout n'est pas prédéterminé.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Nathalie Zemon-Davis, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors nous sommes, vous et moi, dans les studios de France Bleu, Loire-Océan, qui nous accueille à l'occasion de l'ouverture ce vendredi du festival Nous Autres, initié par Patrick.
Très heureuse d'être ici.
Boucheron, qui vous a invité, il l'a fait de vous, et vous en êtes heureuse, l'invité d'honneur de ce festival, où on verra des films, on verra du théâtre. Dites-moi, vous vouliez être documentariste au cinéma? Votre père voulait faire du théâtre?
Oui. Oui, et il a dû devenir homme d'affaires, mais le théâtre était toujours dans son rêve. Et comme moi, j'avais toujours ce rêve, je crois. Et la possibilité maintenant de travailler avec Wajdi Mouawad, c'était une grâce, c'est un don. Mais ça a commencé d'abord avec le travail sur le film.
Le film Martin Guerre.
Le film Le Retour de Martin Guerre.
On y viendra tout à l'heure, mais si on remonte un peu plus avant.
Oui.
Vous voulez bien parler des origines familiales qui sont les vôtres? Votre famille est arrivée au 19e siècle, oui, aux États-Unis, depuis la Biélorussie, la Lituanie, la Pologne.
Oui, et ils sont venus aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, l'État de Vermont, comme petits commerçants, et sans aucun sens d'histoire, sauf peut-être l'histoire biblique de la Bible, le Vieux Testament juif. Et même mes parents, nés aux États-Unis, de ces immigrants, n'avaient aucun sens d'histoire. C'était pour eux le présent, l'Amérique. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est mon passé? Et au lycée, je dois dire que j'ai découvert pas seulement l'histoire, mais l'histoire de la France, qui était très spéciale pour moi.
1952, vous arrivez en France, je crois, pour la première fois.
Oui.
Vous découvrez le paysage français.
Oh, quelle beauté! Oh, c'était une découverte formidable.
Et à Lyon, les archives, parce que vous aviez décidé de travailler sur les compagnons imprimeurs lyonnais.
Oui.
Racontez l'arrivée aux archives, l'importance que ça a pour vous, le petit frisson d'anticipation quand vous entrez.
Oui. C'était à ce moment dans la vieille bibliothèque de Lyon. Et je me rappelle toujours de la chambre avec ses chaises majestueuses et les tables importantes. Et puis d'avoir dans les mains ces documents du XVIe siècle, touchés par les mains de gens du XVIe siècle, par les personnes d'importance, du gouvernement, et puis d'avoir les livres imprimés au XVIe siècle. Eux, ces livres étaient touchés par mes imprimeurs et les ouvriers aussi. C'était, bien entendu, le contact est plutôt intellectuel, mais ce contact physique m'a beaucoup touché.
Oui, mais pour toucher les papiers des archives de Lyon, il faut continuer d'avoir ce bout de papier très important qu'est le passeport américain.
Le passeport est la plus noble partie de l'homme. D'ailleurs, un passeport ne se fabrique pas aussi simplement qu'un homme. On peut faire un homme n'importe où, le plus étourdiment du monde et sans motif raisonnable. Un passeport, jamais. Aussi reconnaît-on la valeur d'un bon passeport, tandis que celle d'un homme, si grande qu'elle soit, n'est pas forcément reconnue.
Disons que l'homme n'est que le véhicule matériel du passeport.
Et pourtant, on pourrait soutenir qu'à certains égards, l'homme est indispensable au passeport. Le passeport est l'essentiel, devant lui chapeau. Mais sans un homme qui aille avec, pas de passeport possible. Ou en tout cas, il lui manquerait quelque chose.
Bertolt Brecht, dialogue d'exilé. Votre mari, plus encore que vous, et vous, avez des activités politiques qui sont jugées anti-américaines par les autorités qui vous privent de votre passeport et de la possibilité pendant 8 ans de revenir travailler sur votre sujet.
Et comme parti, le passeport est essentiel. J'ai dû m'habituer à vivre sans passeport. Au commencement, j'ai été attristée, mais enfin, j'ai trouvé une façon de faire ce que je peux. Il y a des documents, il y a surtout les livres imprimés du 16e qui restent aux bibliothèques américaines. Et j'ai dû faire mon mieux, comme ça. C'était, quand j'ai pu revenir enfin en France, c'était un don. En 60, j'ai eu mon passeport et enfin, je suis revenue.
Dites-moi, c'est très important pour vous, pour les femmes dans l'histoire, la ruse,
oui.
La métisse,
oui, oui.
Comme dit Homère.
Oui, alors peut-être même... La ruse s'était sortie un peu de cette époque, quand on a beaucoup de problèmes, de limites politiques et d'autres problèmes, on doit trouver d'autres moyens d'accomplir ce qu'on veut faire. Et pour moi, la ruse n'est pas une qualité mauvaise. On peut se servir de ça dans une façon très cruelle. Pour moi, c'est une façon de se débrouiller, si vous voulez. Et mon propre expérience m'a donné une intuition pour les femmes du 16e. En effet, je vois la ruse comme aide pour les paysannes comme Bertrande et d'autres femmes.
Bertrande de Rolls, nous sommes à Artigat, non loin de Toulouse. Elle a épousé Martin Guerre. Martin Guerre est parti à l'aventure. Il n'est pas revenu. Un Martin Guerre revient cependant. Est-ce que c'est vraiment Martin Guerre ou bien est-ce que ça ne serait pas un certain Arnaud Dutille qui sait beaucoup de Martin Guerre et qui aime Bertrande mieux que ne l'aimait Martin et Bertrande l'aime aussi et est-ce que c'est de la ruse? Elle le couvre presque jusqu'au bout.
Martin est resté longtemps parti?
8 hivers, 9.
Et pendant tout ce temps, pas une seule nouvelle?
Non. Rien.
Les galants, je suis sûr, ne vous ont pas manqué.
Non, mais j'ai gardé mon honneur.
Dites plus fort, on entend mal.
J'ai gardé mon honneur. Tout le monde vous le dira, je suis restée chaste.
Vous n'avez jamais oublié Martin.
Je voudrais entendre une dernière fois... La femme de Martin Guerre.
La cour s'en rapporte à vous. Maintenant, et pour la dernière fois, je vous le demande, cet homme est-il votre mari ?
Oui, j'en suis sûre.
Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer avec une certitude absolue?
Parlez. Nous sommes ici pour tout entendre.
Quand il est revenu, il connaissait tout de moi.
Quoi? Connaissait-il quelques détails intimes que seul un mari connaît de sa femme?
Oui.
Quoi? Quel détail?
Il savait les moments où j'aimais jouir de lui. Et les mots que j'aimais entendre, avant, pendant et après.
La cour va maintenant se retirer pour délibérer.
Un extrait du film de Daniel Vigne, dont vous avez été conseillère historique. Vous avez publié, Nathalie Zemon Davis, un livre sur Martin Guerre. Elle joue très gros, Bertrande, quand elle affirme que l'homme qui est revenu est son mari.
Oui, et j'ai beaucoup travaillé même sur ces phrases. Elle ne dit pas un mensonge à ce moment. Pour elle, c'est son mari. Elle ne dit pas « c'est Martin Guerre », elle dit « je sais que c'est mon mari parce qu'elle a pris Arnaudetti comme son vrai mari. Notre idée dans le film était qu'elle était son complice. Elle était tout à fait au courant. Pour moi, ce travail dans le film était surtout pour soutenir le rôle de Bertrande. Mon rôle était d'affirmer le rôle très important dans toute cette affaire de Bertrande, pas comme une femme contrôlée par les autres, mais qui a joué un rôle qui était difficile pour une paysanne à cette époque. Je crois que c'était bien fait, le scénario à la fin, et que Nathalie Baye l'a bien joué.
Dites-moi quand même, Arnaud,
oui.
Le faux Martin Guerre,
oui.
Il aurait pu entraîner dans sa chute,
oui.
Bertrande.
Oui, je crois que c'est pour cela qu'il a dit que c'était sa faute seulement à lui. Il a une certaine qualité de noblesse, si vous voulez, ce paysan. Et il a pris toute la responsabilité.
Ça vous intéresse beaucoup, la manière dont les femmes, mais aussi bien les hommes, prennent leurs responsabilités à la fin?
Oui, oui. Je ne veux pas être trop optimiste, trop naïf sur le passé, mais je cherche à la fois une vision, bien entendu documentée par les archives, une vision réaliste, même dure. Mais pour moi, je cherche toujours les signes de résilience et de résistance, même tout petit. Je veux voir les deux côtés des êtres humains, des côtés cruels et durs, violentes, mais à la fois les côtés généreux, ouverts aux autres, et puis, comme j'ai dit, résilience, très important.
Ces signes, vous les cherchez ou vous les imaginez?
Je les cherchais, j'espère pour eux, mais je dois les trouver dans la documentation. Si ça n'existe pas, c'est dommage pour moi, parce qu'eux, ils ont la prédominance. La documentation, c'est une responsabilité de l'historienne, bien entendu. Nous avons notre valeur, nos valeurs, notre personnalité, ça joue. On ne peut pas contrôler tout, mais je fais mon mieux d'être responsable.
Deuxième personnage auquel vous vous êtes attaché, dans un livre qui concerne le XVIIe siècle maintenant, et qui confronte trois destins de femmes, une protestante, une juive et une femme très catholique. Alors on va s'arrêter sur cette femme très catholique qui au départ s'appelle Marie Guyard à Tours et qui devient une religieuse ursuline, Marie de l'Incarnation, longtemps supérieure du couvent de l'Incarnation qui est fondé à Québec au milieu du XVIIe siècle et qui vient d'être mise en vente maintenant alors que se prépare une fiction, un film sur Marie de l'Incarnation. Petit portrait en pied du personnage dans les premières décennies de sa vie par Marc Normand.
Marie Guyard, plus connue sous son nom de religieuse, Marie de l'Incarnation, commença sa vie à Tours. Ses parents, de petits boulangers, la marièrent à 16 ans. Bien qu'elle aurait préféré entrer dans les ordres, elle se sent heureuse auprès de son époux, qui la laisse faire ses dévotions, autant qu'elle le souhaite. Au printemps 1619, elle accouche d'un petit garçon. À l'automne, son mari meurt. Marie a 19 ans et elle se retrouve seule, veuve. Un enfant de 6 mois et les dettes de son époux sur les bras. Sa sœur et son beau-frère, des charretiers, on dirait aujourd'hui des entrepreneurs dans les transports, la prennent alors comme bonne à tout faire. Et Marie travaille dur, avec ardeur, comme elle le fera, toute sa vie. Lorsque son fils atteint l'âge de 12 ans, et surtout sans écouter les hurlements de sa famille, Marie, confiant l'enfant à sa sœur, entre au couvent des Ursulines de Tours, en janvier 1631. Vers la Noël 1633, elle fait un rêve qui la marque étrangement et refuse de sortir de ses pensées. Elle s'y voit, marchant avec une inconnue dans un pays de brume, dans un monde qu'elle n'a jamais vu. Et le 4 mai 1639, quand le Saint-Joseph lève l'ancre à Dieppe et prend le cap du Canada, 11 femmes sont à son bord.
Quand elle part au Canada en 1639, Claude a 19 ans. C'est la dernière fois. Elle sait que c'est la dernière fois qu'elle le verra. Elle disait que c'est comme si mes os se déboîtaient, dira-t-elle. Enfin, c'est extrêmement impressionnant. Mais en même temps, il est vrai que Claude avait mal accepté à l'âge de 12 ans que sa mère rentre au couvent. Mais dès 1640, elle apprend que Claude rentre chez les bénédictins, devient bénédictin. Et enfin, il commence tout doucement, là, comme novice. Et là, elle reprend contact avec lui.
Point de vue de Thérèse Nadeau, la cour de l'université Laval. Alors attendez, Nathalie Zemon-Davis, c'est quand même tout à fait étonnant cette histoire. Bon, une veuve austère et vertueuse, bon, très bien. Une veuve qui entre au couvent, bon. Mais une veuve qui plante là son fils, qui va d'ailleurs faire du tapage à la porte du couvent avec ses camarades.
Maman, maman.
Et ensuite, elle part au Canada, mais dans un endroit impossible, où vous vivez maintenant. Et il ne la reverra pas. Et ils vont se réconcilier, le fils et la mère. Alors que le fils, il a eu une adolescence difficile, hein, parce qu'il a fait pas mal de frasques.
Cette vie de correspondance entre les deux, cette façon de réparer la perte d'une vie intime par les lettres. Je le trouve très émouvant. Elle écrit des lettres, lui, il répond. Et puis, à la fin, elle a insisté qu'il brûle toutes ses lettres. Elle a gagné son accord. Et bien entendu, juste après son mort, il a publié tout pour proclamer au monde qu'il avait une mère et qu'il est resté. La rupture, mais qu'elle est restée en contact avec lui. Je trouve que c'est une belle histoire.
Mais je lisais des témoignages de filles de prêtres,
oui,
tout récemment.
Oui.
Et ces filles de prêtres ne comprennent pas pourquoi leur père ne s'est pas occupé d'elles. Alors donc, il y a un Dieu qui est plus important,
oui, oui,
que moi, pour mes, oui, parents. Oui. Prêtre et, oui, femme de prêtre, oui. C'est incroyable.
Oui, c'est quelque chose. Well, Claude,
c'est le fils. Hein.
Il est devenu religieux lui-même. Il a pu comprendre ce choix, je crois, enfin. C'est quelque chose d'important pour nous de comprendre de cet esprit religieux du XVIIe siècle, que pour eux, il y aura un amour plus important que ça de mère et fils. Pour moi, ça serait difficile. Comme mère moi-même, je ne ferais jamais un choix comme ça. Jamais. Mais ça, c'est un choix personnel. Comme historienne, je dois comprendre Marie. Et puis, pour une femme du XVIIe siècle, elle était pionnière. C'était quelque chose d'aller de la France au Canada. C'est loin. Elle a dû créer cette autre vie familiale entre femmes dans les Ursulines. C'était elle qui a créé le couvent. J'admire son aventure.
Alors, vous pouvez décrire ce couvent. Il y a un parc,
oui, oui.
Il y a des huttes.
Oui.
Et puis, il y a des filles sauvages, avec oui, un S oui, majuscule,
qu'elles
enseignent.
Oui, oui. D'abord, ça lui a donné l'occasion d'enseigner sérieusement, plus qu'elle aurait pu avoir en France avec les filles du couvent.
Mais elle n'a pas de formation, elle.
Non, non, elle était formée par elle-même, par elle-même.
Et mais elle n'a pas appris le latin et elle le parle quand même.
Elle a, par elle-même, c'était vraiment...
C'était une infusion, dit-elle.
Oui, c'est vrai.
Le latin a été infusé.
Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'était sa façon de l'expliquer. C'est un miracle, sa formation. Elle.
Mais attendez, elle avait appris le latin comme ça d'elle-même et elle a parlé avec les autochtones, l'algonquin, l'iroquois.
Non, non, elle était vraiment forte pour les langues. Elle a la possibilité. Oui, c'était vraiment très important que c'est elle qui lui-même, qu'elle-même, a appris de parler dans la langue des Iroquois. C'est un accomplissement. C'était une éducation quotidienne, une éducation de travail. Et tandis que les jésuites, ils avaient toute une formation. Mais le rapport avec les femmes, qui est documenté dans les travaux de jésuites, était beaucoup plus formel, beaucoup plus de dominance. Tandis qu'avec ces ursulines, si elles étaient chrétiennes, plus importantes que les dieux de Dr. Thun, mais c'était plus intime, je crois.
Mais vous faites effort pour vous mettre dans la tête des femmes du XVIIe siècle.
Oui.
Marie de l'Incarnation, elle faisait un effort pour se mettre dans la tête des indigènes?
Je crois, sans jamais perdre sa propre certitude chrétienne, il y a quelquefois de souplesse dans ses attitudes envers leur mariage, envers leurs amours entre eux. Et elle avait un sens d'être fait partie de leur famille, finalement.
Oui, mais enfin, ça c'est peut-être vous qui l'imaginez, parce que à ce livre que j'évoque, qui compare trois femmes du XVIIe siècle, vous faites une préface où vous imaginez être en dialogue avec elles. Et alors les trois vous tombent sur leur âble en disant « Vous avez le goût de l'aventure, madame l'historienne. »
Oui, d'accord, d'accord. Mais j'ai fait ça exprès pour m'accuser peut-être de me servir trop d'imagination. Mais j'avais pensé comme ça d'avertir mes lecteurs que j'étais au courant que c'est possible que j'ai exagéré un peu. Si eux étaient au courant, bon, je vous ai averti.
C'est un pacte entre le lecteur et vous. Elle parlait algonquin. Il lui est arrivé à Marie de l'Incarnation, à Québec, de recevoir des Iroquois. On n'est jamais très sûr, quand même, des sources dans ce domaine. Alors, ceci, c'est un chant qu'on a longtemps considéré comme Iroquois. Et il paraît, c'est un recherchiste de Radio-Canada qui vient de l'affirmer, que ce serait en fait un chant arapaho, c'est-à-dire beaucoup plus à l'ouest.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Nathalie Zamon-Davis, nous sommes à Nantes dans les studios de France Bleu Loire-Océan à l'occasion du début du festival Nous Autres, qui vous reçoit comme invité d'honneur. Alors vous revenez comme ça en France. Parce que, au fond, là, avec Marie de l'Incarnation, vous commencez à vous intéresser aux Amérindiens. On sait que vous vous êtes intéressé aux Indiens du Suriname.
Oui.
Bon, la France, c'est bien, mais c'est un peu petit, quoi. C'est comme la clôture pour Marie de l'Incarnation à Tours. Elle veut aller plus loin. Vous, vous allez de plus en plus loin, maintenant.
Oui. Oui. Toujours avec un intérêt dans les indigènes, je dois dire. Et oui, peut-être que je suis une femme impatiente, je ne sais pas. Mais dans ce livre, Marie Sibylle Marianne, la troisième femme, elle-même étudiait les papillons, parce qu'elle est botaniste, entomologiste de Suriname. Et je me suis dit, tiens, c'est tellement intéressant ce Suriname du 17e, 18e siècle, avec ce monde des indigènes, hélas des esclaves de l'Afrique, et les Européens, pas seulement les Hollandais, mais les Français, il y avait beaucoup d'Huguenots là-bas, et puis il y avait des Juifs. Et quelle occasion pour une étude des rapports entre les rapports à la fois oppressifs, mais les rapports plus sociaux, les rapports de mariage, de sexualité. J'avais pensé que c'était encore une fois un don, ce Suriname. Petit dans, géographiquement, mais énorme du point de vue de possibilités pour un historien.
Historienne des possibles. Le Festival de Nantes, nous autres, qui commence aujourd'hui, a pour thème les hommes et les femmes monde.
Oui.
Ce festival prend souvent la forme de conversation. Vous en aurez une avec Patrick Boucheron ce soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un grand livre d'une femme qui était la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre? Ça s'appelle Les Ptamérons. Et Les Ptamérons, c'est une suite de conversations.
Oui, mais ces histoires sont extraordinaires. Et
donc c'est un groupe retenu par une inondation.
Oui.
Et les uns et les autres parlent,
oui.
comme vous allez parler à Nantes.
Oui, notre festival est dans la tradition, si vous voulez, de Marguerite de Navarre, y compris avec l'aspect public, parce que ces manuscrits ont circulé et ont été publiés pour que les autres puissent entendre cette conversation. Et ce qui était formidable, c'était la présence des hommes et des femmes. Un ouvrage brillant.
Les femmes étaient du même avis que les hommes?
Non. Très souvent, les femmes prennent un point de vue très fort que l'indépendance des femmes. Je ne veux pas la faire trop moderne, mais elle affirme la possibilité des choix par les femmes et pour leurs amants. Les femmes cachent les choses comme les hommes. Elles sont actives, bien actives.
Mais les femmes qui conversent entre elles,
oui.
Dans le livre de Marguerite de Navarre, elles ne sont pas nécessairement d'accord entre
non,
elles.
Non. Mais ça, c'est très important. L'idée qu'il y a un groupe homogène des femmes, ce n'est pas du tout la vérité.
Merci à vous, Nathalie Zemmendevis. On évoquait tout à l'heure les personnages du Vieux Testament, comme vous dites,
oui.
que citait votre famille, la oui. femme forte de Salomon.
Oui.
C'est ça un peu oui. ce que vous êtes, non?
Oui. Hein? Oui, ma grand-mère était comme ça.
Oui, et puis vous-même. Alors, vos livres, on en trouvera les références sur notre site, ainsi que le programme précis de nous autres, le festival qui commence à Nantes. Nous remercions France Bleu Loire-Océan, ici représenté par Sylvain Latu, de nous avoir accueillis. Cette émission était préparée par Antoine Oberdoff et à la réalisation Audrey Ripouille.